Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Et un gendarme précisément face au terrorisme ce matin.
Et un gendarme aussi démuni que le colonel Bertram est admirable. Et on découvre ce gendarme avec une curiosité attendrie dans le magazine du Monde, raconté par la grande chroniqueuse judiciaire Pascal Robert Diard. Je ne me souviens plus de son visage, je me rappelle surtout qu'il était costaud et qu'il portait une épouvantable cravate à fleurs qui n'allait pas du tout avec son costume, qui n'allait avec rien d'ailleurs. Et ce gendarme, en septembre 2002, témoignait devant la cour d'assises de Paris qui jugeait les auteurs de l'attentat du RER à la station Saint-Michel en 1995. Ce gendarme avait vu les terroristes, mais il avait raconté au tribunal son cas de conscience. Il n'aurait jamais dû se trouver à Paris le jour de l'attentat. Il était venu dans la capitale avec sa maîtresse. Son épouse le croyait en Bretagne. Et s'il témoignait, et il avait témoigné, il briserait son foyer et sa vie. Et Pascal Robert Diard se souvient de son hésitation. C'est une histoire très jolie parmi d'autres dans un long article où la journaliste dévide quelques souvenirs du palais de justice de Paris qui va déménager de l'île de la Cité au 17e arrondissement. C'est une bonne raison. La justice est un théâtre, elle est aussi un enjeu social. Quand des avocats font grève contre les projets du gouvernement, on en parle notamment dans l'Union, dans Var Matin aujourd'hui et également dans La Voix du Nord.
La Voix du Nord, Claude, qui polémique avec une avocate, c'est
qui s'appelle cet avocat Tiphaine Auzière et Brigitte Macron et sa maman. L'affaire est passée quasiment inaperçue cette semaine, on comprend pourquoi, mais tout reste vivant sur le web. Elle commence mardi dernier, quand la Voix du Nord s'interroge, Tiphaine Auzière en fait-elle trop et raconte que la belle-fille du président de la République a été reçue par le président du tribunal de grande instance de Boulogne pour discuter de l'éventuelle attribution d'un pôle social à ce tribunal. Problème, dit le journal, Tiphaine Auzière n'a aucun mandat électif pour aller voir le président du tribunal ou le préfet. Oui, le préfet, elle avait déjà rencontré la jeune femme, le préfet du Nord à l'automne en tant que responsable local de En Marche. Récidive donc, imagine-t-on, se demande La Voix du Nord, les représentants locaux du FN ou des Verts, reçus par des hauts responsables en toute simplicité. Tiphaine Auzière est à portée de SMS de son beau-père. Si elle veut être utile, pourquoi ne pas user de son influence directement auprès de lui? Bim! Le jour même, Tiphaine Auzière regrettait sur Facebook d'être ainsi résumée à son statut de belle-fille du président. Et le lendemain, la soldate Marlène Schiappa pas en rajoutait d'un tweet. Si vous êtes un homme, vous êtes cité par votre profession. Si vous êtes une femme, vous êtes cité par votre statut familial. Patriarcat, sexisme ordinaire. Mais La Voix du Nord, fier journal, ne renonce pas. Et sa journaliste, Élodie Rébé, répliquait hier, non Marlène Schiappa, nous ne faisons pas du sexisme ordinaire. Et s'amusait, La Voix du Nord élue au plus haut niveau de l'État et insistait, c'est bien l'influence que Tiphaine Auzière pourrait avoir en tant que proche du président de la République qui interroge, rebim, question de principe donc et l'honneur d'un journal ou bien une petite histoire si nous sortons de nos frontières. Car il est ailleurs, pas loin de nous, des journalistes qui risquent vraiment leur liberté et pas seulement des journalistes. Dans cette Turquie que le philosophe Bernard-Henri Lévy dénonce comme une des puissances qui défie les valeurs démocratiques de l'Occident, c'est dans l'Express à propos de son dernier livre. La Turquie, dont le président Erdogan a épousé les thèses de l'extrême droite ultranationaliste, nous dit le Monde diplomatique, qui raconte aussi la peur des opposants au régime, opposants qui tremblent dès qu'on frappe à la porte. Les journaux du régime relayant l'État publient chaque mois des listes de noms de suspects. 115 000 personnes sont ainsi devenues des parias dont les amis se détournent de peur d'être contaminés. Et 120 journalistes libres ceux-là, ou plutôt ils ne le sont plus, sont actuellement en prison. Dans l'Obs, vous lirez un très bon reportage sur les journaux satiriques turcs qui survivent au pays d'Erdogan. Ils s'appellent Beynayani ou Leman, dont le patron était un copain de Volinsky. Les kiosquiers n'osent plus les mettre en avant et ils reçoivent des menaces sur Facebook. Tu nous fais marrer, dommage, tu vas finir en enfer. Mais ce n'est pas une raison évidemment pour que le pouvoir français résiste à La Voix du Nord quand elle a raison.
On passe aux consommateurs. Claude, ils sont sur la sellette dans Libération.
Les consommateurs qui notent ivres de leur liberté de client et qui brisent ainsi des existences. Libération raconte ce chauffeur Uber, Fabien, qui a été débranché de l'application. Il avait une moyenne de 4 étoiles sur 5 alors que Uber en exige 4,5. On perd ainsi son travail parce qu'on a été fatigué, on ne faisait pas la causette et ça n'a pas plu à la personne que l'on véhiculait. Et cette manie de la notation, qui parle aussi des hôtels, des restaurants, des chauffeurs-livreurs, dessine une oppression insidieuse sur laquelle réfléchit Libération et nous avec. Vous le voyez Nicolas, tout tourne autour de la question du pouvoir et de nos libertés entamées. Le nouveau magazine littéraire consacre un dossier implacable au maître maîtres de la Silicon Valley et à l'idéologie qui sous-tend leur emprise, eux qui pensent pouvoir abolir la mort, les États et la vie privée du droit des meilleurs. Et on lira dans ce magazine le portrait d'une femme qui s'appelait Ayn Rand, une romancière disparue en 1982, dont les livres sont les plus lus aux États-Unis juste après la Bible. Elle exprimait un éloge de l'égoïsme contre l'État et la célébration des entrepreneurs géniaux et des créateurs solitaires qui doivent guider la masse des premiers de cordée, dirait-on. On la connaît peu en France, mais elle est capitale, affirme Stéphane Legrand, l'auteur de l'article et d'un essai sur elle. Donald Trump la lit, mais également les fondateurs de Apple, de PayPal ou de Uber, évidemment. On en termine, il faut donc lire de vieux livres pour comprendre où nous allons. Et on va acheter une revue qui s'appelle Books, qui raconte l'actualité par les livres et qui nous raconte cette semaine la question des femmes et du pouvoir. C'est plus complexe que le tweet de Marlène Schiappa. Et Book me fait découvrir une utopie majeure écrite en 1915. Le livre s'appelait Hairland. Ça racontait un pays de femmes ayant réalisé une société idéale où même les chats ne mangeaient plus les oiseaux. Et cette société devait se défendre contre 3 hommes. On lira avec joie un extrait où les hommes intrus sont enlevés par des gardiennes athlétiques, légères et puissantes. Domination. On n'en sort pas.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.